Toute l'info en trois lettres. RRB.
17h45 sur RRB Info Weekend. Mickaël Juneski.
Près de 6000 policiers et gendarmes mobilisés pour ce long week-end, un dispositif important déployé afin de garantir la sécurité de la population à l'occasion du pont du 24 septembre. Des contrôles sont déjà lancés par les forces de l'ordre ce samedi à Nouméa comme en Brousse. Illustration à suivre dans cette édition. Un feu de brousse toujours surveillé sur la zone Conné-Point-Bout. Il a menacé des habitations durant les derniers jours et mobilise des moyens de la sécurité civile. Une page d'histoire végétale de la ville de Nouméa dans les jardins du musée. Le public était convié ce matin pour une visite dans le cadre des Journées du patrimoine. L'actualité nationale, selon Matignon, le nouveau gouvernement sera officiellement présenté ce week-end. Michel Barnier a donné sa liste de 38 ministres à l'Élysée. La libération d'un pilote néo-zélandais détenu en Papouasie-Occidentale par un groupe armé depuis plus d'un an, alors qu'il assurait des liaisons aériennes vitales pour les communautés isolées de la région. Et puis en sport de la boxe, la journée des clubs a accroché les amateurs du Noblard en Calédonie. Une remontée sur le ring qui se déroulait à la salle de Lansvata. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tous savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Un long week-end qui débute donc sous la surveillance d'un important dispositif de sécurité pour la population. C'est ce qui fait la une de l'actualité ce soir. Près de 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés alors que les mesures ont été renforcées avec notamment le couvre-feu qui débute à partir de 18h ce soir et ce jusqu'au 24 septembre. Les forces de l'ordre sont déjà en action pour ce week-end de 4 jours. Illustration sur un contrôle de police qui était organisé route de Nouville, juste devant le musée maritime et la maison des artisans dès cet après-midi. Le reportage de Lana Colombo.
Pas de passe droit, qu'ils viennent de Nouville ou du centre-ville. Tous les usagers de la route étaient contrôlés par la police depuis 15h30. Un contrôle presque de routine avec le tour de l'état du véhicule, la vérification des papiers et parfois même un alcotest à utiliser. Des vérifications qui font partie des mesures préventives prévues par le Haut Commissariat, explique Théophile Delassus, le directeur de cabinet du Haut Commissaire.
Pendant ce long week-end, un dispositif important de forces de sécurité intérieure a été déployé sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et le Haut-Commissaire a demandé aux policiers et aux gendarmes de se déployer sur l'ensemble des points pour contrôler et s'assurer du respect des mesures qu'il a prises, à savoir le non-port et transport d'armes, la non-consommation d'alcool sur la voie publique et l'ensemble de ces mesures qui permettent et continueront de permettre d'assurer la sécurité des Calédoniens dans cette période sensible.
Si les forces de l'ordre quadrillent en priorité les lieux dits à haut risque ou qui ont déjà subi des exactions par le passé, la police ne se limite pas à ces zones. Elle souhaite être présente dans le plus de lieux possible, souligne le commissaire général Alexis Marsan, coordinateur de la Direction générale de la police nationale.
Toute la ville doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle de police de manière apaisée où on contrôle les papiers d'un véhicule. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir. Et dans ce rapport police-population, et en tout cas État-population, c'est que contrôler, c'est la première présence de la sécurité. Je crois qu'on ne rencontre pas d'hostilité. Il faut vraiment être objectif là-dessus aussi. Des personnes qui nous remercient, oui, on voit que ça concerne tout le monde. Parce que la présence policière, c'est la présence de l'État, et c'est au profit de la citoyenneté, et c'est au profit de tout le monde.
Des centaines de voitures ont été contrôlées. On notera quelques contraventions pour défaut d'assurance, mais le plus souvent, les conducteurs étaient en règle, même lors du test d'alcoolémie.
Donc, je vous présente l'appareil. Donc là, il est prêt. Vous avez juste à souffler un souffle lent. Pendant ce souffle-là, vous allez entendre un bruit. Vous y allez jusqu'au bout de ce bruit, et quand ça s'arrête, et ben vous arrêtez de souffler.
Ok, bon, on y va.
Vous soufflez normalement.
Ouais.
Allez-y, continuez, et c'est bon.
Wow.
Là, il va s'afficher votre taux, et vous avez lu...
C'est ça, j'ai consommé.
Alors, vous avez zéro et qui s'affiche, donc c'est bon pour nous, monsieur. Okay. Je vous remets vos dos au papier, et puis le contrôle se termine là.
Ça va, je suis content de moi, parce que je n'ai pas consommé d'alcool à midi. Enfin, je rigole, mais c'est vrai qu'on ne doit pas... des choses qui sont à prendre au sérieux, mais là, c'est vrai que c'est important de le faire. Quoi.
Ce renfort de contrôle routier durera même après ce long week-end de 4 jours et le 24 septembre.
Le reportage de Léana Colombo, 166 véhicules ont été contrôlés entre 15h30 et 17h30. Le bilan fait état de 9 amendes forfaitaires et d'un port d'armes. Le haut-commissaire a réuni ce matin au COS, le centre opérationnel zonal, les acteurs de la sécurité mobilisés depuis le début des émeutes et plus particulièrement ce week-end à l'approche du 24 septembre, Léo Fichou.
Et oui, l'occasion déjà pour Louis Lefranc de rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, un certain nombre de mesures sont mises en place par arrêté préfectoral. L'interdiction des rassemblements, l'interdiction également d'achat et de transport d'alcool, interdiction aussi de transporter des armes. Et puis il y a le couvre-feu de 18h à 6h jusqu'à mardi. Le haut-commissaire a ensuite fait le bilan de la nuit dernière sur le Grand Nouméa.
Il y a eu un petit peu d'agitation sur Nouméa, moins que la nuit précédente, beaucoup moins en zone gendarmerie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut rester évidemment très vigilant. Sur Nouméa, c'est toujours dans les quartiers nord que ça se passe. Bon, le niveau d'hostilité est largement gérable vu le volume de force que vous avez. Sur Dumbéa, Païta, c'est pas la même chose. Sur le Mont d'Or, là, le sujet, c'est Saint-Louis. C'est extrêmement calme cette nuit. Et il faudra bien évidemment rester très attentif à toute évolution sur le secteur de Saint-Louis puisque ça a des répercussions sur le reste du territoire calédonien.
J'ajoute que des feux de végétation ont principalement été recensés dans les quartiers de Porte de Fer et de Tuban. À Nouville, 3 départs de feu dans l'enceinte du lycée Jules Garnier ont rapidement été maîtrisés. Les pompiers sont aussi intervenus à Caméré, Magenta Aérodrome et à Tindu où les pompiers se sont fait caillasser lors de l'intervention malgré la présence des forces de l'ordre. Des incendies également observés dans le Grand Nouméa, notamment à Dumbéa et dans certaines communes de Brousse comme à Ponériouin. Les feux ont rapidement été maîtrisés grâce aux dispositifs conséquents mis en place à l'occasion de ce grand week-end. Le haut-commissaire qui était d'ailleurs cet après-midi à la rencontre des forces de l'ordre sur le terrain pour suivre la mise en place du dispositif. Un dispositif qui compte pas moins de 41 unités de forces mobiles avec des renforts de la sécurité civile, soit près de 6000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers. Ces derniers effectuent un travail indispensable afin de garantir la protection des biens et d'assurer la sécurité des Calédoniens. On rappelle que depuis le début des émeutes, il y a eu 2908 interpellations.
Et le procureur de la République fait part de l'avancée des investigations au Mont d'Or par voie de communiqué ce soir. Au cours des dernières 24 heures, 3 personnes convoquées dans le cadre des enquêtes pénales en cours se sont présentées spontanément à la gendarmerie. 2 personnes faisant l'objet d'un mandat de recherche du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique sont actuellement en garde à vue sur commission rogatoire du magistrat instructeur. Les faits reprochés consistant en une série de tirs avec des armes à feu sur les gendarmes mobiles en mai et en juin ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. La 3e personne mise en cause dans un délit de recel de vol a reçu une convocation en justice avant d'être remise en liberté à l'issue de sa garde à vue. Les opérations judiciaires visant à interpeller les 9 auteurs présumés faisant l'objet d'un mandat de recherche se poursuivent car nous sommes dans un état de droit, déclare le procureur de la République, et l'action de la justice contribue au rétablissement de l'ordre républicain. Le procureur qui tient à saluer, je cite toujours, l'action des autorités coutumières en direction des jeunes et de leurs familles au sein de la tribu de Saint-Louis, visant au retour au calme, tout comme plusieurs déclarations publiques, dont celle de Louis Mapou. Yves Dupas ajoute que, comme il s'y est engagé auprès des grands chefs de Saint-Louis, des représentants coutumiers pourront assurer un accompagnement moral et matériel auprès des jeunes de la tribu qui seraient incarcérés au centre pénitentiaire de Nouméa dans le cadre des procédures diligentées à leur encontre. Fin de citation. Le Sénat coutumier s'est adressé au Conseil de l'air à Djuare et aux représentants du district de Nîmes par voie de communiqué après l'incendie qui a détruit jeudi soir la grande case à l'entrée du domaine de Neva. Un événement tragique selon ce communiqué Léo Fichot.
Les images de cet incendie largement partagées sur les réseaux sociaux nous rappellent l'importance de nos symboles culturels et du patrimoine que nous partageons, écrit ce communiqué signé Éloi Gowé, le président du Sénat coutumier. Et de poursuivre, la case de Deva n'était pas seulement une structure, mais la représentation de notre histoire collective, de notre identité et de nos traditions. Le maire de Bouraille, Patrick Robelin, a exprimé sa tristesse face à cette perte, soulignant le besoin de comprendre les circonstances de cette tragédie. Nous partageons sa préoccupation et appelons à une enquête approfondie pour identifier les causes et les éventuels responsables de cet incendie. Le communiqué poursuit, il est de notre devoir de protéger nos valeurs et nos symboles culturels. Dans ce contexte déjà difficile, nous condamnons fermement cet acte et exprimons notre profonde indignation. Nous appelons toutes les parties prenantes, élus, coutumiers et membres de la société civile à se rassembler et à agir ensemble pour mettre fin à cette situation difficile dans laquelle nous sommes depuis plus de 4 mois et trouver également des solutions adéquates aux aspirations des uns et des autres. Il est crucial en ces temps troublés de ne pas céder aux provocations. Au contraire, nous devons faire preuve de solidarité et d'unité. C'est ensemble que nous pourrons dépasser cette crise insurrectionnelle et construire un avenir apaisé pour nos générations futures. Fin de citation.
J'ajoute que le président du Sénat coutumier, Éloi Goué, s'entretient cette semaine avec Gilles Ménage dans le Portrait de la semaine sur Radio Rythme Bleu. Une émission à retrouver juste après ce journal.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Conné, c'est le 98.
Sur le front des feux de brousse, l'incendie de Pointe-Boute, toujours sous surveillance. Il a démarré il y a plusieurs jours sur la route de la plage de Franco. Il s'est rapidement propagé, nécessitant la mobilisation de moyens, notamment de la sécurité civile, pour reprendre le contrôle. Les conditions météo rendent la tâche difficile. Écoutez le témoignage de Roxane. Elle est maraîchère à Pointe-Boute. Elle a elle-même dû protéger son habitation des flammes à quelques mètres de sa maison hier.
On les a arrêtés avant, parce que comme nous, on a le mazout, on a tout ça ici. C'est une propriété agricole, donc on a intérêt d'arrêter les flammes bien avant. Ben, on a deux voitures chargées avec les cuves à eau et seaux d'eau. Nous, on a les motopompes et tout ça en bas à la rivière. Donc on surveille, on se prépare pour intervenir.
La RT1 a un temps été coupée en raison de cet incendie avant qu'une circulation alternée ne soit mise en place. Plusieurs habitations ont été menacées ces derniers jours. Les pompiers de Conné restent mobilisés avec le soutien de moyens de la sécurité civile.
Vous écoutez RRB, il est 17h56.
À la découverte du patrimoine de Nouméa, ce matin, une visite mêlée d'ateliers se déroulait dans le jardin du musée de la ville. Une découverte qui a passionné petits et grands, Léana Colombo.
Et oui, ils étaient 10 ce matin à se présenter à 9h au musée de la ville de Nouméa. Une invitation à redécouvrir ce jardin encore trop souvent méconnu et créé en 2000. La visite s'est déroulée en deux temps. Une découverte du jardin, puis une mise en couleur d'illustrations d'artistes locaux, toujours en lien avec la végétation. Une découverte du patrimoine riche et varié qui revêt différentes formes, explique Clémentine Poiré, médiatrice culturelle pour la ville de Nouméa.
Le patrimoine, ce n'est pas que des objets dans un musée enfermé, c'est aussi les plantes, c'est aussi le végétal et toute l'histoire qu'elles transmettent. On redécouvre quand même pas mal l'histoire des plantes de nos jardins. Et on se fait quand même surprendre parce que il n'y a pas que des plantes endémiques et pour beaucoup, elles sont importées depuis de très longues dates. Donc c'est intégré dans nos pratiques de jardinage. Ce que j'aime bien faire découvrir, ça va être les fleurs, la beauté des fleurs, les couleurs, toujours assez impressionnant. Et puis, on va aussi axé sur différents usages, que ce soit des plantes nourricières, des plantes décoratives avec ces jolies fleurs ou des plantes médicinales. Donc on a des petits tuyaux comme ça à passer, et beaucoup d'échanges aussi avec les visiteurs. Moi j'utilise comme ça, etc. pour soigner telle et telle maladie.
C'est donc sous un beau ciel bleu et au son des chants des oiseaux que le groupe de curieux a déambulé dans le jardin toute la matinée. Découverte d'agrumes, de plantes méditerranéennes et petites anecdotes sur la construction de la ville de Nouméa à ressortir pour briller en soirée ont rythmé cette visite guidée. Écoutez.
Ici, vous êtes face à... Est-ce que tu reconnais ça ?
Un citron ?
Oui, un petit citronnier. Ben, le citronnier, il n'est pas né en Nouvelle-Calédonie.
Les citrons, ça vient d'Asie et le café, ça vient d'Afrique.
Il y a au moins mon fils là qui a tendance à être intéressé par les plantes, donc du coup on se dit qu'on allait essayer.
Et au final, vous aussi vous apprenez des choses ?
Mais oui, juste même sur le citron là, j'avais aucune idée que ça venait de Chine. Donc des petites choses toutes bêtes comme ça, ouais, donc très bien.
C'est intéressant d'avoir l'aspect patrimoine et histoire. En tant que voilà, habitant de Nouméa depuis pas forcément très très longtemps, on est toujours content de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre sur notre ville.
Justement, sur Nouméa, qu'est-ce que vous avez appris ?
Les détails de l'aménagement en fait, différents entre guillemets plans d'urbanisme qui ne sont pas forcément connus une fois que tout est tout propre et tout beau à un temps T en 2024 par exemple.
La prochaine visite est programmée pour le 11 octobre. Pour rappel, l'entrée et la visite sont gratuites et sur inscription.
Une idée de sortie, le Cinécity poursuit sa thématique du Seigneur des Anneaux pour découvrir ou redécouvrir la célèbre trilogie du réalisateur néo-zélandais Peter Jackson sur grand écran. Il est toujours possible de réserver vos places. Au vu de la demande, le Cinécity a décidé de rajouter des séances pour les samedis du mois d'octobre. Et puis en parallèle, notez que demain, au parc forestier de Nouméa, le Sci-Fi Club proposera un pique-nique en terre du milieu à partir de 11h. Pour participer, il suffit d'amener sa natte, son pique-nique et un livre de Tolkien. Il est 17h passé de 59 minutes. Une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal avec vous, Michael Juneski.
Le nouveau gouvernement composé par Michel Barnier sera présenté d'ici demain, selon Matignon. La liste des 38 membres de l'exécutif, dont 16 ministres de plein exercice, a été transmise à l'Élysée. Une mission difficile pour le Premier ministre qui, dans un contexte inédit, sans aucune majorité claire à l'Assemblée nationale, est surveillé par tous les partis. Décryptage de ce casting signé Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, devrait être nommé au ministère de l'Intérieur. La députée LR du Doubs, Annie Genevard, irait à l'agriculture, Agnès Pannier-Runacher à l'écologie. Le député macroniste de la Haute-Savoie, Antoine Armand, est pressenti pour le ministère de l'Économie. Le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet, aux Outre-mer. Le ministre délégué démissionnaire chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, issu du Modem, remplacerait Stéphane Séjourné au Quai d'Orsay. Geneviève Darrieussecq du Modem également irait à la Santé. Sébastien Lecornu garderait le ministère des Armées. Quant à la justice, qui pour succéder à Éric Dupond-Moretti? C'est Didier Migaud, ancien socialiste qui devrait être nommé place Vendôme. Mais cette liste peut encore bouger. En témoigne le cas de Laurence Garnier, proposé par Michel Barnier pour le ministère des Familles. Emmanuel Macron ne souhaite pas la nomination de cette sénatrice LR qui a soutenu le mouvement de la Manif pour tous contre le mariage gay.
Jacques Serret pour Europe 1. Par ailleurs, une manifestation est annoncée ce soir dans les rues de Paris. Une mobilisation contre le futur gouvernement. 100 à 200 individus radicaux pourraient se trouver dans le cortège, selon les autorités. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. L'actualité dans les Outre-mer. Couvre-feu partiel toujours en vigueur dans plusieurs localités de Martinique et ce jusqu'à lundi. L'île est en proie à des violences urbaines alors qu'une mobilisation contre la vie chère a dégénéré avec des forces de l'ordre prises à partie. Le préfet de Martinique a décrété l'interdiction de manifestations, d'attroupements et d'autres rassemblement revendicatif, notamment à Fort-de-France. L'actualité dans le monde, une nouvelle attaque ciblée d'Israël sur le Liban. Une frappe de Tzahal sur la banlieue sud de Beyrouth a fait au moins 14 morts hier. Ce raid intervient quelques jours seulement après les attaques sur les appareils de transmission de membres du Hezbollah qui ont fait 37 morts et plus de 3000 blessés. Hier, 14 personnes ont donc trouvé la mort, parmi lesquelles l'un des chefs d'unité du Hezbollah. C'est une lourde perte pour le mouvement islamiste. Frédéric Simon d'Europe 1.
Avec Ibrahim Akil, le Hezbollah perd l'un de ses principaux dirigeants, l'un des plus expérimenté également. Après la mort de Fouad Shouker, le chef d'état-major de l'organisation tué par Israël le 30 juillet dernier, Akil dirigeait de fait ses forces armées. Selon Tzahal, il planifiait une invasion des localités proches de la frontière libanaise dans l'intention d'y perpétrer des massacres similaires à ceux commis par le Hamas le 7 octobre. Âgé de 64 ans, Ibrahim Akil avait rejoint le Hezbollah dès sa fondation en 1982. Il s'y était spécialisé dans les opérations terroristes, enlèvement de ressortissants occidentaux, planification et exécution d'attentats meurtriers. Son implication dans deux attaques au camion piégé en 83 contre l'ambassade américaine de Beyrouth, puis contre les baraquements des soldats américains et français, lui valurent d'avoir sa tête mise à prix par Washington. Pas moins de 7 millions de dollars étaient promis à toute personne pouvant fournir des informations susceptibles d'aider les États-Unis à le localiser. Tel Aviv, Frédéric Simon pour Europe 1.
L'actualité dans la région Pacifique. Un pilote d'avion néo-zélandais qui avait été enlevé par des rebelles armés dans la province indonésienne de Papouasie, en proie à une insurrection, a été libéré après un an et demi de captivité. L'homme, âgé de 38 ans, avait été enlevé le 7 février 2023, alors qu'il pilotait un petit avion commercial dans le district isolé de Ndunga. Il assurait des liaisons aériennes vitales vers des communautés isolées de la région au moment de son enlèvement par les rebelles du groupe insurgé de l'Armée de Libération Nationale de Papouasie-Occidentale. Son avion avait été incendié. Une force opérationnelle conjointe composée de policiers et de militaires l'a donc récupéré. Le pilote est sain et sauf. Il s'est entretenu avec sa famille, a indiqué le gouvernement néo-zélandais. Je rappelle que l'Indonésie maintient une forte présence militaire en Papouasie, province riche en ressources mais sous-développée. Des forces armées indonésiennes présentes pour réprimer une insurrection séparatiste implantée de longue date. La Papouasie est une ancienne colonie néerlandaise qui a déclaré son indépendance en 1961. Mais l'Indonésie voisine en a pris le contrôle seulement 2 ans plus tard. 18h, passé de 5 minutes, une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et à la une de l'actualité sportive du football avec Léo Fichou, la 5e journée de Ligue 1.
Et oui, ce matin, en ouverture de la 5e journée, Nice n'a fait qu'une seule petite bouchée de Saint-Etienne. Les Aiglons se sont imposés 8-0. C'est la première fois depuis 1957 que Nice marque 8 buts dans un seul et même match. Une victoire qui permet aux Niçois de revenir provisoirement à la 5e place du classement. Les Stéphanois, eux, retombent dans leur travers. C'est déjà leur 4e défaite en 5 matchs. Cette saison. Cette nuit, 3 rencontres sont au programme. Lille-Strasbourg à 2h, Rennes-Lens à 4h et Reims-PSG à 6h.
L'actualité du rugby, la 3e journée du championnat de France avec ce soir dès 23h30 le choc Montpellier-Toulouse. Puis à 1h30 du matin en simultané, Clermont-Bayonne, Castres-Perpignan, La Rochelle-Pau et Vannes, le promu face au Lyon Olympique Universitaire. À 6h ce dimanche, l'Union Bordeaux-Bègles de Yoram Moefana croisera le fer avec le Racing 92 de Romain Taoufifenoua. Et en attendant, à suivre dès à présent le Rugby Championship, le tournoi des nations de l'hémisphère sud, et une confrontation Australie-Nouvelle-Zélande qui est en cours. Les All Blacks menaient 28-14 après 38 minutes de jeu. L'autre confrontation opposera les Sud-Africains, toujours invaincus cette année, aux Pumas à partir de 8h ce dimanche matin. Les sports mécaniques et en MotoGP, le rendez-vous du week-end, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Lors des essais libres, c'est Francesco Bagnaia sur Ducati qui a réalisé le meilleur chrono. Il a devancé les Espagnols Jorge Martin et Marc Marquez. On retiendra surtout la très belle prestation de Fabio Quartararo. Il a conduit sa Yamaha jusqu'à la 5e place du classement provisoire.
C'est un petit pas en avant. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner plus de fois les Q2 parce que ça te change totalement les week-ends. Et je pense que voilà, le rythme était assez bon, on a réussi à faire un tour assez bien aussi, donc voilà, les personnes que j'ai devant moi, sincèrement, ils sont intouchables pour l'instant, donc je pense que c'est la meilleure position qu'on pouvait faire aujourd'hui.
L'autre pilote tricolore, Johan Zarco, a terminé à la 12e place de ses essais libres. Qualification et sprint race à suivre ce soir, le Grand Prix demain soir, départ à 22h, heure de Nouméa.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports mécaniques toujours avec la F1. Le Grand Prix de Singapour ce week-end, McLaren et Ferrari qui ont dominé la première journée des essais libres, Léo Fichou.
Et sous une chaleur étouffante du circuit urbain de Marina Bay, la McLaren de Lando Norris a une nouvelle fois été la plus performante ce vendredi lors de la première journée des essais libres du Grand Prix de Singapour, suivie de près par les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. De son côté, Max Verstappen, toujours leader du championnat du monde avec 59 points d'avance sur Lando Norris, a de nouveau figuré loin des débats et a même été sanctionné pour des propos vulgaires tenus en conférence de presse. Les Français, eux, sont encore une fois à la peine. Esteban Ocon a terminé 10e et 17e des essais libres. Pierre Gasly a réalisé les 13e et 18e temps. La prochaine séance d'essais libres aura lieu à 21h30, heure de Nouméa. Les qualifications démarreront à minuit.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien, du football avec la petite finale du championnat féminin d'Océanie des moins de 16 ans, Léo.
Et malheureusement, les jeunes cagous se sont inclinés 1-0 contre les Tonga à la mi-journée. Elles terminent donc 4e du championnat d'Océanie des moins de 16 ans. Et sans surprise, c'est la Nouvelle-Zélande qui remporte la compétition. Elles ont battu en finale les Samoa, victoire 4-0.
Sur le territoire aussi du football, avec le troisième match amical de la sélection A de Nouvelle-Calédonie cet après-midi, les joueurs de Johan Sidaner se sont imposés 3-2 face à Horizon Sport. L'ouverture de la saison de boxe, c'était aujourd'hui à la salle Omnisport de Lanzvata. Une belle journée pour le comité régional de Nouvelle-Calédonie, puisqu'une soixantaine de boxeurs des clubs de Dimbéa, du Mont-d'Or, de Lanzvata et de Rivière-Salée ont répondu présent. Une journée de retrouvailles où les objectifs étaient très précis pour Christophe Savoie, cadre technique du comité régional.
Le premier, c'était de rassembler les troupes, c'était de faire plaisir à tous les boxeurs, les licenciés qui n'ont pas eu de compétition depuis le mois de mai. Donc on n'a pas fait de compétition, mais le fait d'avoir différents clubs, de pouvoir avoir des tests matchs, des petites mises de gants, comme on dit, entre les différents pratiquants de différents clubs. Et le deuxième objectif, c'était aussi de mettre en situation réelle les assistants prévôts qui ont passé leur stage le mois dernier. Donc je leur avais demandé de préparer différents ateliers pour les différents niveaux. Tout le monde est content et tout le monde demande à remettre ça le mois prochain. Mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire un tournoi. Donc voilà.
Gaston Paul, licencié à l'AS 6e kilomètre, ne rate aucun entraînement. Malheureusement, son club est fermé depuis plusieurs mois. Alors, pour garder le rythme et continuer de pratiquer son sport, il était aujourd'hui à la salle Omnisport de Lanzvata.
Exactement, ouais, ça fait beaucoup de bien. Et, au début, on faisait un enchaînement de 10 minutes. Et après, on a attaqué avec les sparring. Sparring deux fois 2 minutes. Comme c'était tranquille, on venait de reprendre. Et ouais, ça s'est bien passé, on était contents de se revoir encore entre boxeurs. Hâte de reprendre les combats, ouais. Ouais.
Les entraînements ont donc repris aujourd'hui à la salle Omnisport de Lanzvata et on a senti déjà l'envie chez les boxeurs de reprendre aussi les combats. Des Jeux Olympiques à la natation santé, c'était ce matin à la piscine du CNC. Ils étaient nombreux à se faire coacher par des championnes de France, du monde et olympiques de natation, Léo Fichou.
Un moment de partage, oui, autour de la natation proposé par Santéo, le centre de santé, sport et bien-être à Nouméa. Solène Figuès, médaillée olympique aux Jeux d'Athènes en 2004, nous confiait il y a quelques jours sur notre antenne vouloir surfer sur la vague positive des Jeux de Paris. Et c'est donc un pari réussi. Les nageurs débutants et confirmés étaient nombreux ce matin à se faire coacher par Solène Figuès, mais aussi par Lauriane Hague, championne de France et championne aussi aux Jeux Méditerranée en 2013. Parmi les nageurs et nageuses qui ont pu bénéficier d'un coach, on retrouve Clio. Elle s'étonnait presque d'avoir autant appris en une seule séance, mais maintenant c'est clair, elle nagera différemment.
Ah, c'est sûr, il faut après pratiquer, mais c'est l'idée. Donc, moi je suis totalement débutante, donc elle m'a donné la mobilité des épaules. Elle m'a demandé de tester, donc de nager comme j'en avais l'habitude, de faire les nages que je souhaitais. Et ensuite elle m'a donné des conseils. Et j'ai découvert que je nageais avec une main plus fermée et une main complètement ouverte. Je m'en étais jamais rendu compte, par exemple. C'était très très bien, j'avais jamais eu ce genre de conseil destiné à la nage, à ce point précis. Enfin, c'était très intéressant. J'ai appris en une séance.
Certains en ont aussi profité pour se prendre en photo avec les médailles remportées par Solène Figuès et Lauriane Hague durant leur carrière. Un stand Santéo était aussi installé au bord du bassin principal.
Et puis hors du territoire, réussira-t-il son comeback en kickboxing? Cédric Do remontera sur le ring en Croatie la nuit prochaine. Quasiment un an après avoir remporté une ceinture européenne chez les moins de 75 kilos, le Calédonian Fighter participera à la soirée du Glory 95 en Croatie. À 29 ans, notre représentant totalise 34 victoires sur 41 combats, 21 victoires par KO, mais il a vécu en un an une blessure, puis les émeutes et son programme de préparation perturbé avec 3 combats ratés en raison du blocage de l'aéroport de la Tantuta. Il fera donc son retour face au Croate Filip Matic. Ce sera la nuit prochaine à partir de 3h du matin pour nous. 18h passé de 14 minutes, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Une météo que vous nous détaillez, Maxime. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Eh bien, pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, après dissipation des nuages, l'ouest retrouvera un ciel clair un peu nuageux. Les nuages résisteront davantage sur l'ouest et l'est, où quelques ondées resteront possibles. Sur la pointe et la Grande Terre, au Loyauté, le vent d'est à nord-est se rapproche des 10 nœuds. Ailleurs, le vent restera faible et les températures seront au-dessus des normales ce soir, avec 19 à 23 degrés et localement 16 à 18 degrés sur l'ouest. Demain matin, le soleil dominera dans l'ensemble. Cependant, les nuages qui circuleront sur la côte est donneront de rares averses. Le vent d'est à est-nord-est se rapproche des 10 nœuds, localement 15 nœuds sur la pointe nord. Et sur l'ouest, les brises resteront assez faibles.